C'est la deuxième heure de ce 1239e Sweet Home Chicago. Et en deuxième heure, l'invité sera Cory Sesnek. Depuis des années, Cory Sesnek cisèle avec délicatesse et talent une musique inspirée de blues et de folk, inspirée par la nature, les musiques du monde surtout, arpentant le globe, récoltant le miel de chaque culture rencontrée. Il en nourrit une musique personnelle, à la fois subtile et racinienne, enchanteresse et d'une harmonie infinie. C'est un bonheur de goûter son répertoire où nous solliciterons ses deux derniers albums Eyes on the Rise et Deep of Time, une très belle découverte à faire absolument. Each and every day go round and round and round and round, deep, deep, deep in the deep of time. Gonna pick what's left of my main bridges off the ground and kiss myself goodbye. Dust off my boots and take my saddle from the wall. Lead my pony up into the starry night. Gonna lasso the man on the moon and put him in my pocket. Surf the solar wind and fly so high. Je suis au téléphone avec Cory Sesnek. Bonjour Cory.
Bonjour Marc.
Très heureux de te parler depuis plusieurs années parce que ça faisait un bon moment. Non pas qu'on n'avait pas entendu parler de toi, mais en tout cas que tu n'étais pas passé sur les ondes du 666. Et je m'en réjouis parce qu'il y a une multiple actualité discographique en ce moment autour de toi, Cory Sesnek.
Parce que
tu fais partie de multiples projets, on va évoquer ça durant l'interview. Et puis peut-être aussi, en guise de présentation, Cory, nous dire d'où tu viens. En tant qu'artiste franco-américain, tu as eu plusieurs racines, on va dire, plusieurs...
Oui, c'est ça, tout à fait. Je suis à moitié breton, à moitié américain. J'ai grandi aux États-Unis, dans le Connecticut, et puis ensuite dans le Maryland. Et mon père est finistérien. Il est d'origine, les Sesneks sont tous de... Enfin, ma branche à moi est de Brest. Et voilà, donc j'ai toujours un peu de famille là-bas, en Bretagne. J'ai toute ma famille, sinon, toujours dans les bois du Maryland.
Voilà, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors tout de suite, pour nos amis auditeurs qui auraient peut-être fait le rapprochement, il y a un rapport avec l'affaire Sesnek ou pas du tout?
Ah oui, c'est ça, une question un peu éternelle.
J'imagine.
En fait, c'est de la cousinade du 19e siècle, je pense. Guillaume Sesnek, il devait faire partie... En fait, lui, il est de la branche de Sesnek de Morlaix. Tous les Sesnek à l'origine viennent de Quimper ou aux alentours de Quimper, et ça a un peu éclaté à ce moment-là. Et du coup, moi, je pense que ça doit être un cousin très très lointain, mais on n'est vraiment pas très proche.
Cette double origine, Cory, est-ce que ça explique ta démarche musicale et puis ta démarche un peu de vagabond et d'ethnomusicologue?
C'est sûr que le simple fait d'avoir de grandir dans une maison un peu multiculturelle, avec en plus un père qui voyageur aussi, qui a vécu au Moyen-Orient, et puis avec beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est un peu musique du monde aussi à la maison, une culture assez riche à ce niveau-là. Donc moi j'étais exposé très jeune à plein de musiques différentes et du coup ça m'a parlé tout de suite. Je me rappelle ado, j'ai commencé vraiment à écouter plus la musique africaine par exemple. C'est plus tard que c'était devenu quelque chose de très cher à moi où j'ai voulu vraiment aller plus loin et apprendre un peu les styles, différents styles de guitare et métisser, mélanger tout ça. Et créer dans une petite cocotte et créer ma petite sauce à moi. Quoi.
Et en obtenir une véritable identité musicale, parce que le métissage culturel et musical, c'est quelque chose qui te connaît. Alors, il y a d'autres artistes auxquels on pourrait te comparer, bien sûr, mais tout de suite, on pense côté blues, d'abord, à quelqu'un comme, au niveau de, on va dire, de l'initiation guitaristique dans le domaine du picking. Il y a certaines choses qui m'ont rappelé Mississippi John Hurt. Est-ce que c'est...
Oui, bien sûr. Give me red lipstick and a bright poppy rouge, a single mark half cut
and a shot of good booze. Hurry down, sweet daddy, come blowin' your horn. If you come too late, sweet mama will be gone.
Ouais. Bien sûr, c'était un des premiers que j'ai. Donc, c'est John Hurt, je crois que c'était un, son morceau Richland Woman Blues, c'était le premier morceau que j'ai vraiment appris country blues il y a très longtemps maintenant. Et c'est sûr que Mississippi John Hurt, je suis allé à son festival. Il y a un festival qui est organisé par sa petite fille dans le Mississippi. J'y suis allé deux fois. C'était vraiment très formateur pour moi.
Ouais. Ouais.
John Hurt, c'était un grand monsieur pour moi. Ouais.
Et puis côté folk aussi, avec oui. Des choses très profondes, très variées, très riches. Et en même temps, j'ai cette impression, et elle n'est pas que renforcée par les pochettes de tes albums, mais oui. Ça reste très très influencé et orienté nature et vérité, oui. En fait. On ressent tout ça à l'écoute de ta musique.
Tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Et c'est en fait. Mais comme mes parents habitent sur une ferme dans le Maryland, moi j'étais assez jeune, j'étais souvent dans les bois. Puis avec mon père, on travaillait le bois. Moi, je fendais pas mal de bois. On avait même une scie pour faire des planches, etc. Et ils ont des moutons maintenant. Enfin voilà. Donc pour moi, la nature est quelque chose de très important pour moi. Et ça, je soulève ces thèmes un peu dans ma musique aussi. Ouais.
Skin cap and a wood carved gun. Remember all be forgotten. Saw his lover oh so fair, running towards the mesa. Open book in her hands, that's fixed out there, seeking her enchanted mesa. Little worlds dreaming of their mesa, turning deadlies into gold and stones into pearls, conjuring their enchanted mesa. Old Paul Clifford sitting on the steps, living in his mesa, sipping his tea, watching the sunset, top of his enchanted mesa.
très très influencé et orienté nature, et c'est un des éléments de ta musique, effectivement. Alors, comment est-ce que tu peux expliquer ton parcours ? Il a été le fruit d'un déracinement ou le fruit d'un réenracinement ailleurs ? Est-ce que tu es aussi bonne bien question. En France qu'aux États-Unis ?
Oui, c'est une très très bonne question, et je crois que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que c'est sûr qu'en habitant en France, j'ai un peu renoué mes liens avec ma partie un peu française, partie bretonne, partie, les amis et la famille ici. Et c'est sûr que c'est un peu ma vie quotidienne maintenant. Mes enfants sont scolarisés en France, etc. Donc, on est là. Mais c'est sûr qu'en même temps, j'aime bien le côté déracinement aussi, d'aller voir autre chose, de partir, de m'exposer à plein de cultures différentes. Et en fait, trouver les liens entre les pistes, un peu tout qui nous réunit au final. Et qui, moi, j'aime bien faire ces ponts, ces passerelles un peu entre différentes traditions, différentes cultures.
Avec une sorte de repollinisation quelque part, partout où tu vas. C'est ça, en fait, non ?
C'est vrai que l'instrument, par exemple, le banjo...
Oui.
Un peu un instrument un peu secondaire pour moi, mais je suis principalement, je dirais plutôt guitariste dans le picking, mais j'adore le banjo, et je trouve que l'instrument sur le plan historique, musicologique, organologique, c'est hyper intéressant, puisque ça incarne un peu ce concept de melting pot aux États-Unis, et puis avec ses origines africaines, et puis c'est vrai que moi j'ai passé du temps en Afrique de l'Est, en Éthiopie, etc. Et on trouve, moi je trouvais que le banjo il s'immisçait là-dedans, je pouvais trouver plus de connexion avec les artistes locaux par le banjo que par la guitare parfois. Je trouvais ça intéressant, et voilà, donc le banjo je trouve qu'il est top pour ça.
Alors l'Europe, l'Amérique, on les évoque bien sûr puisque ce sont tes deux patries en quelque sorte, mais l'Afrique, c'est vrai que tu y as passé pas mal de temps. Il y a un certain nombre d'autres instruments que tu as pu apprendre là-bas, notamment la kora.
La kora je la joue pas du tout, mais je joue avec des joueurs de kora.
Et tu collectionnes des instruments.
Je collectionne des instruments. J'ai une goni à la maison, j'ai un charango d'Amérique du Sud, de mes voyages là-bas, mais j'ai un krar éthiopien. Alors pareil, moi je bidouille. C'est vrai que parfois je les joue pour trouver un peu des sons et des choses qui pourraient s'intégrer dans ma composition, dans mon travail à ce niveau-là. Mais je dirais pas du tout que je suis précis et très, très musicologue à ce niveau-là. J'aime bien collectionner un peu les instruments, mais je suis pas du tout... expert dans le jouage.
Est-ce que, Cory, est-ce que tu peux nous parler de ces expériences que tu as faites, notamment en te produisant avec des musiciens africains ? Ça a commencé comment ?
Oui. Alors, en fait, au départ, j'ai commencé à jouer à Paris. Quand j'étais à Paris il y a 15 ans, peut-être maintenant ou un petit peu moins, j'ai commencé à faire des rencontres avec des artistes africains, dont des Maliens, et je les ai un peu suivis. Et ça, tout de suite, j'étais un peu acolyte de certains, et puis j'ai appris des styles de guitare à ce niveau-là. Et j'étais dans le métro avec eux, etc. Ça m'a tout de suite parlé. J'ai fait un voyage au Mali avec ma femme. C'était incroyable. On a fait 3 semaines là-bas. À l'époque, on pouvait voyager partout dans le pays. Donc, c'est pas vraiment le cas maintenant, avec tous les soucis. Et après, plus tard, je suis parti vivre en Éthiopie parce que ma femme a eu un travail là-bas. Et du coup, on est parti vivre là-bas 3 ans et demi. Et ça m'a permis vraiment de me poser et de faire des vraies rencontres. Donc, plusieurs artistes éthiopiens dans la musique traditionnelle. Et j'ai commencé par un groupe un peu foufou qui s'appelait Misto Misto.
I've been a moonshiner for 20 long years. I spent all my money on whiskey and beer. I go to some hollow and I set up my still, and the whiskey don't kill me. I don't know one will.
Misto Misto, c'était, on appelait ça le Ethio sci-fi, tiffy, sci-fi pop. Voilà. Ça, c'est un peu un espèce de délire, un peu lubie. Et puis ensuite, après, j'ai commencé à me concentrer un peu plus. J'ai créé un groupe qui s'appelait Damakassé. La main cassée. Mmh. Et ça, c'était vraiment, je suis assez fier de ce projet-là, puisque c'était le fruit d'une vraie collaboration entre moi et plusieurs artistes éthiopiens. Et on peut l'écouter sur Bandcamp et tout ça. Et depuis, ces gars-là avec qui j'ai travaillé, ils jouent en ce moment avec une amie à moi qui s'appelle Kate, qui est une super violoniste. Et elle, eux, ils sont dans un groupe qui s'appelle Kwankwa et ils tournent souvent aux États-Unis en ce moment. Donc c'est bien de voir tout ça, que tout le monde reste actif à ce niveau-là. Et après, moi, j'ai pu quand même voyager au Kenya, par exemple. J'ai fait un documentaire avec un ami sur les guitaristes de Western Kenya qui pratiquent un style qui est un peu le vieux style qu'on appelle Omutibo. C'est un style de guitare picking qui est vraiment super, avec beaucoup de syncope et beaucoup de rythmique.
Oui, parce que Cory, on vient de l'évoquer, tu possèdes beaucoup d'instruments et j'ai l'impression beaucoup d'instruments à cordes, mais tu as plus d'une corde à ton arc parce que tu fais également dans le documentaire, dans le cinéma, tu enregistres des musiques de films, on peut le dire.
Alors oui, je suis emmené de temps en temps à faire des bandes son. Enfin, je travaille surtout tout ce qui est un peu documentaire. J'ai fait du travail là-dedans et dont un film qui s'appelle Au pied de la gloire. C'est un film sur le football. Qui a été tourné par Fabrice Macco et c'est sur un centre de formation avec un film qui était sur Arte qui était assez sympa si on est un peu amateur de football.
Oh. et en plus, comme si ça ne suffisait pas tout ça pour ta biographie, tu donnes des leçons d'instrument.
Oui, je donne des cours régulièrement et d'ailleurs je suis souvent en Caroline du Nord aux États-Unis l'été, j'y serai pas cet été, mais les trois dernières années j'ai fait ça en Caroline du Nord. C'est des super stages de guitare, ils appellent ça un gathering en anglais, c'est vraiment un super rassemblement de gens bien vieillants, tout le monde est très sympa et c'est à la fois pédagogique et puis il y a des concerts aussi le soir, il y a des jams et tout ça, donc moi je suis très content de faire partie de ça, il y a des super musiciens qui sont là-dedans en plus, donc c'est une aubaine pour moi.
C'est le Swanaona Gathering à Asheville, exactement, en Caroline du Nord, pour les gens que ça intéresse. Tu n'y seras pas cet été, mais j'imagine ça se poursuit.
L'année suivante, je pense que c'est fort probable que j'y serai, ouais.
D'accord, donc en 2025. Et donc, en marge de ce séjour, long séjour en Éthiopie, il t'est arrivé quelque chose, ça a frôlé la mort, il me semble, Cory.
Oui, alors, on peut s'en marrer, et puis c'est quelque chose qui, pour moi, était au moment, le jour J, c'était vraiment pas génial.
J'imagine.
Mais oui, il y a eu des petites, c'était une vraie mésaventure, on peut le dire, mais c'était assez, maintenant c'est rigolo, et d'ailleurs, je crois que je sais pas si c'est l'année, parce qu'il y a eu deux, trois incidents comme ça.
Ah ouais.
Mais il y en a un qui était, c'était à Wenchi, côté à 2 heures d'Addis Abeba, en Éthiopie, où on avait des vrais soucis de voiture et on a failli tomber dans le ravin 2-3 fois là.
Wow.
ça s'est bien passé au final, mais c'est sûr que sur le coup on était très 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 inquiets. Mais j'ai même fait une composition un peu instrumentale, musique instrumentale basée sur cette expérience avec mon groupe Tuki, mon nouveau groupe un peu avec l'artiste Amadou Diagne.
Tuki qui est un groupe qui a une actualité, qui sort un album en ce moment qui s'appelle Plastic Man, c'est ça?
Oui.
Land was crying, fish were dying, Modu fall, heard the call, Zendaga market, wasting the streets, can't even see the sand, sparkling on the beach. Dead baobab, submerged in trash, so much waste, it gives you whiplash. In 13 days, he cleaned it all. Slow the rising tide, clean Senegal. Plastic Man, Kangurai, Senegal.
Plastic Man,
oui, tout à fait.
Tu peux nous en parler un petit peu, j'ai absolument pas encore entendu ce disque, mais ça sera bientôt chose faite.
Ouais, on est très content, très fiers de ce projet et de cet album. On a fait ça à Real World, c'est le studio de Peter Gabriel en Angleterre l'année dernière, et ça a été produit et réalisé par mon collègue Oscar Kainer, qui est un super, il est un peu notre manager et puis réalisateur aussi, directeur artistique un peu. Du coup, on a fait cet album avec en fait, Plastic Man, ça parle d'un personnage, non pas Plastic Man, en fait, ça évoque un personnage du Sénégal. C'est un certain Modou Fall qui est très engagé dans tout ce qui est un peu pollution plastique. Et en fait, c'est assez incroyable parce que, donc, il se fringue en un espèce de personnage un peu, un concourant, ils appellent ça.
Ouais.
Et en fait, c'est un peu un personnage mythique dans la culture sénégalaise. Et lui, il a, en fait, au lieu de se fringuer comme ça normalement, il se revêt de plastique, il se couvre de plastique et pour un peu militer contre la pollution plastique au Sénégal. Donc c'était un peu un hommage à ce monsieur Modou Fall. Et en gros, l'album lui-même a beaucoup de thèmes un peu écolo, etc. Mais en gros, voilà, c'est un projet qui nous tient au cœur. Et donc on commence cette tournée en 2024. La semaine prochaine, on joue à Londres. Et on fait toute une tournée en 2024. On a pas mal de dates en Angleterre et des petites dates en France et peut-être en Irlande aussi.
Voilà, ça c'est un autre beau projet. Touki, c'était un trio au départ ou combien vous êtes dedans?
C'est un trio, parfois quartet, ça dépend un peu des conditions. Mais
ouais.
En ce moment, on tourne à trois. Et oui, voilà. Donc c'est avec Amadou Diagne qui joue de la kora et la percussion et qui chante, moi guitare banjo et Marius Pibaro, c'est le violoncelliste et violoniste. Et parfois on ajoute un super musicien américain qui s'appelle Duncan Weko qui est violoncelliste.
Ouais. Voilà, donc à géométrie variable. Cette formation,
oui, voilà,
Touki. Cory Sesnek, il n'y a pas que ce groupe qui occupe ton actualité, mais on peut parler également de ce que tu as fait avant, notamment un groupe qui existait, tu me disais, pendant une petite dizaine d'années, c'est Groundbox. Ça, c'est important dans ta carrière, dans ta biographie, hein, Cory.
Tout à fait, oui. Alors, ce que je dis souvent dans ma bio, c'est que c'est là que j'ai eu le pied un peu pied marin. C'est là que j'ai. C'est avec mes collègues dans ce groupe-là, Michael Ward Bergman, un virtuose. Michael Ward Bergman, un virtuose, un accordéoniste virtuose, et Paul Clifford, un percussionniste canadien. Ces deux, ils étaient un peu plus âgés que moi, et moi j'étais le jeune pousse là-dedans. Et en fait, ils m'ont coaché un petit peu, mais surtout, j'ai appris plein de choses, et puis on a voyagé partout, on a tout fait, quoi. On a fait des 10 ans de tournée, c'était assez foufou à l'époque. En plus, on faisait parfois 30 ou 34 dates d'affilée, des trucs comme ça. Et c'était rock'n'roll. Et c'était vraiment plus des traits un peu musique un peu métissée, un peu excentrique, un peu bizarre, assez roots, et c'était pas du tout commercial dans le sens où tout de suite en termes d'instruments, accordéon, banjo gourde, percussion bizarre, on avait un tronc d'arbre sur scène, c'était très théâtral aussi puisque Paul Clifford, le Canadien, il est fascinant, quoi. C'est un vrai énergumène, personnage, voilà, il danse sur scène, on avait une botte rythmique, hein, qu'on appelait le Freedom Boot. C'était une espèce de tige figée, enfin une espèce de grosse, un gros bâton attaché à une botte avec des capsules de bière dessus et plein de ce qu'on appelait le mojo, enfin, c'est tous les petits trucs, tout ce qu'on récoltait pendant nos aventures là, et on mettait ça sur le bâton, et c'est devenu un peu un truc voodoo presque.
Ah, génial.
Et du coup, voilà, on avait une sacrée vibe sur scène, mais c'est le problème pour nous, c'était assez rock'n'roll aussi, enfin, au niveau des enregistrements, on a fait des choses un peu rapides. Je pense qu'on aurait pu prendre plus de temps avec tout ça, mais c'était à l'époque où on pouvait faire des CD rapidement, on pouvait vendre les CD en plus.
Oui, c'est ça, il y a 15-20 temps, c'est ça à peu près, Corinne.
C'est ça. Donc, du coup, c'était à l'époque, on pouvait vraiment faire pas mal de tournées et vendre beaucoup de merch, et c'était pas mal.
Et surtout, faire pas mal d'expériences musicales. Alors, ça continue à être le cas, bien sûr. Pour en terminer avec tous tes projets, avec toutes tes activités, finalement, tu également te produis dans des concerts-conférences, des représentations même dans les hôpitaux de la région parisienne.
Oui,
ce sont des choses que tu fais régulièrement, toujours maintenant.
Oui. D'ailleurs, j'étais Pitié-Salpêtrière hier. Je fais ça régulièrement parce que c'est quelque chose, enfin, ça fait partie du travail pour moi qui un peu c'est très valorisant, on va dire, parce que c'est vraiment, on revient au sens un peu de ce qu'on fait en tant qu'artiste, en tant que musicien, c'est qu'on joue pour les gens, on essaie d'avoir un échange d'énergie, on essaie d'être un peu dans la thérapie aussi, et c'est quelque chose qui, pour moi, qui est très très important. Ça, on n'est plus dans la logique un peu de la machine, un peu musique, business, tout ça, et industrie, et en fait, on revient à quelque chose de très puissant,
oui.
Où on joue pour les patients et le personnel, et c'est moi je trouve ça très valorisant.
Très valorisant, et puis ça permet non seulement la thérapie, mais également la transmission, peut-être susciter des vocations aussi, pourquoi pas.
Oui, exactement, exactement.
Riding the train of thoughts to the end of the line, wondering why no one else is along for the ride. Trying to open my eyes, but I'm hypnotized, and the train keeps hallucinating my mind. In an artist squat in Strasbourg, Saint-Denis, pot smoke, homilies, and graffiti. The art is the act, to an act is an art. Spray up the world and save the refugees. Hey, hey, hey. Paying your own piper and calling the tune by your own thoughts. Now you've been fooled. If you'd admit it, you'd give it all away. But just like me, you're real, genuine, fake. Marcus plays the markets while standing on his head, hustling, bustling, muscling his way for his bread. But the money's a myth, a contract with a bunch of crabs in a bottomless bucket. Ernestine plays it clean, never cracking a smile, earnestly, solidly going the extra mile. But in her heart, it'll all come apart when she takes off her face and sees there's no one inside. Sky. Hallelujah, living in a digital paradise. But if the real's already fake, then the fake fake makes the true hawk seem like a lie.
Alors, on évoquait tous tes projets, Cory Sesdek, mais il y a également des choses qui se passent avec ton frère, Yann. Yann, qui est musicien aussi, non?
Alors oui, alors il s'est calmé un petit peu, puisqu'il est en fait, il est en plein milieu d'un doctorat, là, parce que mon frère, c'est un peu un fou furieux du son. Il est plus qu'un G-son, mais en fait, il travaille là. Il fait un doctorat dans tout ce qui est un peu acoustique du son. Il fait des installations de son, il travaille, il invente des... avec des choses, avec des capteurs, des trucs. Et en fait, là, il est dans un programme où ils sont supposés améliorer un peu la consommation énergétique à la maison par le son.
Ah ouais.
C'est un truc assez perché. Il est en Suède pour faire ça. Ça demande beaucoup de boulot pour lui et beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Donc, il fait moins de musique en ce moment. Donc, c'est un peu en stand-by pour l'instant.
Voilà, du fait, Sesnek Bros n'est plus trop en activité pour l'instant.
Non.
Mais bon, tout ça, ça reviendra, j'imagine que.
Peut-être, oui.
L'histoire bégaye souvent, hein, Cory, j'ai remarqué ça.
C'est ça.
on va évoquer un petit peu ta discographie. Et là, sous ton nom, véritablement, bien sûr, tu as sorti d'autres albums avant, on en a parlé, mais le premier album sous ton nom, est-ce que c'était Beauty in the Dirt en 2014,
c'est ça? Ouais. C'est ça, exactement.
Et ensuite, moi, je me souviens avoir entendu à l'époque Backroad Carnival en 2017.
Ouais.
Et là, tu as eu la gentillesse de m'envoyer tes deux derniers albums, Eyes on the Rise de 2022 et Deep of Time, la profondeur du temps, hein, en 2023, avec, là encore, énormément de musiciens. Est-ce que tu te produis toujours avec l'harmoniciste David Chalumeau?
Oui, tout à fait. Je fais des concerts régulièrement avec David. Il a joué avec moi, il était sur scène au studio de l'Ermitage quand on a fait notre concert sortie d'album, là, il y a quelques semaines. J'adore le jeu de David Chalumeau. Je trouve que c'est un des meilleurs harmonicistes en France et peut-être dans le monde même, parce que vraiment c'est un mec qui cherche des choses et qui a du goût quoi quand il joue. Je trouve que c'est vraiment super ce qu'il fait.
Rest, grab the soil, gotta catch your breath. You keep salting like that, you're gonna catch your death. A hum and haw and a woo-hoo-hoo. Are you holding the saw? Or is it holding you? Back where there was none. The ancient stumps keep us sleeping under. Fed on the ground in the rootlets.
Alors, il y a énormément de musiciens dans ce dernier album, Deep of Time. Il y a Jean-Étienne Louz à la basse, Raphaël Chassin à la batterie aux percussions, Renaud Olivier aux percussions, Congas Mbiba, Ragji est tromboniste, trompettiste et sousaphoniste également, David Mizrahi est à la guitare, Paolo Conti est à la lap steel, il y a Thomas Garoche à la contrebasse, David Chalumeau à l'harmonica, tu viens d'en parler, et Duncan Wickel au violoncelle et au violon. Et toi, Cory, tu joues de quoi dans ce disque?
Rien du tout. J'ai rien fait, en fait. Non, c'est sûr que, en fait, c'était vraiment le dernier album, c'était vraiment le fruit. En fait, comme justement la profondeur du temps, les habits du temps, tout ça, c'était parce qu'on avait le temps. Donc j'ai fait ça pendant le Covid.
Oui.
Et c'est sûr que du coup, c'était un peu le délire de se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on met les choses petit à petit en place, brique par brique. Et on s'est dit bon, bah on va faire un truc assez phonographique avec une reproduction. Et j'ai travaillé justement avec Jean-Étienne Lousse, qui est affiché comme bassiste, mais en fait c'est le réalisateur, avec Geoffroy Doptin de cet album avec moi. Ils m'ont aidé avec les arrangements et c'est avec ces gars-là qu'on a bossé tout ça. Et du coup, c'était, ouais, l'idée c'était de mettre tout ça en place et inviter plein de gens. Moi, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait guitare, banjo, j'ai fait du clavier, piano, tout ça. Un peu de percussion et beaucoup de debugging, des voix et tout ça. C'est sûr que voilà, c'est un peu à la Beatles où on était au studio, on faisait tout ça, on prenait notre temps pour faire ça.
Ouais. Voilà. Alors studio, home studio peut-être.
Alors c'était quand même leur studio. Ils ont un studio à Noisy-le-Roi avec justement un studeur, une machine, pour faire une bande pour faire
analogique.
Des prises analogiques et tout. On a commencé, on a fait tout ça comme ça, puis ensuite ils ont tout balancé sur Pro Tools en numérique et pour ensuite éditer, etc. Mais on a le grain, on a le son un peu analo grâce à tout ça.
Uncle B's plane fell from the sky, giving up his life so others wouldn't die. Prophet's gotta follow that shining light, reaching for the answers in the astral heights. Gotta get clean in the face of the light, gotta do what's right before she says goodbye. Trailblazer, you never get what you do. It's always next in line who shows it to be true. Be the folly that becomes the norm. Few see the light in the middle of the storm. Be the folly that becomes the norm. Few see the light in the middle of the storm. Trailblazer. Everyone sees what they want to see. Corrections made where it's easy. All we need is a good clean fight. Man's just got to demand his rights. But what are rights when everything's lost? Keep pushing that light until there's nothing to cross. So let's tie a ribbon round the old yew tree to learn where we're going and who we used to be. I set you for a journey from this world to the next. In the belly of the woods I chained my flesh. At the shimmering lake my soul was burned. The wheels of the land are about to turn. Yeah.
L'album Deep of Time commence par le titre éponyme et se termine par Deep of Time 2, oui. Avec une formation très réduite, toi-même à la guitare et au chant et Duncan Winkle au violoncelle et au violon, hein, sur ces deux parties. C'était une forme d'ouverture, fermeture, un petit peu comme un concept album, non ?
Oui, tout à fait. On a quand même conçu l'album avec cette idée de revenir à cette idée de concept album un peu des années 70. Et c'est sûr que c'est un peu comme ça qu'on dit. Donc Deep of Time 1, Deep of Time 2, donc à la fin, pour intro et conclusion. Et ensuite, on débarque, on arrive et ça déclenche un peu le reste. Mais il y a quand même des thèmes qui, je sais pas, c'est pas vraiment tout lié. Hein. Chaque morceau n'est pas forcément relié à l'autre, mais c'est quand même, il y a des thèmes qui reviennent, etc.
Est-ce que tu peux nous parler, Cory, en particulier du titre en français qui s'appelle Comparaison du poisson?
Comparaison du poisson, c'est donc c'est quelque chose que j'avais gardé de côté parce qu'en gros, je faisais de l'histoire avant. J'ai fait un master en histoire avant de me dire, ok, je veux être musicien, etc. Donc, je faisais des recherches dans tout ce qui est un peu histoire coloniale, et à un moment donné, j'étais dans une chronique de voyage que j'avais trouvée pendant mes recherches, là, du XVIIe siècle, et c'était un certain Guillaume Copier qui avait écrit ce truc-là, et il avait des poèmes dans cette chronique, et j'adorais il y en avait un qui m'a parlé tout de suite, et c'était cette comparaison du poisson, où il compare un peu la condition humaine à la vie d'un poisson, et comment, en fait, je sais pas, il faudrait qu'on accepte un peu la souffrance qu'on ne peut éviter. Donc, j'aimais bien ce concept-là. Ouais. Et presque du bouddhisme, quoi. Enfin, il faut juste accepter et puis ça va aller mieux, quoi.
D'accord.
C'est pas subir, mais c'est accepter. Et ça, c'est autre chose. Mais bon, c'est marrant. Donc, il y avait ce texte-là. Et en fait, musicalement, c'était devenu quelque chose. Enfin, en fait, en même temps, en parallèle, j'écoutais pas mal de musique un peu est-africaine et de Zimbabwe, etc. Et la rythmique, elle est vraiment très influencée par la musique Chimurenga, un peu la musique pop de Zimbabwe, qui, elle, était influencée par la musique traditionnelle de là-bas, la musique des Shona. Hein, et c'est un peu ce truc de 6-8, un peu, mais avec un bon 4 temps qui est marqué. Donc c'est un peu la polyrythmique que j'aime bien.
Je suis poisson, je suis oiseau. Je vole en l'air, je nage dans l'eau. Dans l'un et l'autre, ma vie. Misérablement poursuivi. Fuir au fuit son ennemi qui n'a jamais l'œil endormi, sans cesse tâchant de me prendre, moi qui n'ai de quoi me défendre. En l'un et l'autre élément, doublant ma fuite et mon tourment. Je suis poisson, je suis oiseau. Pourquoi m'as-tu cruel, Neptune? Fais naître en telle fortune. Pourquoi ciel as-tu pour lui l'aigle carnassier qui me suit? Quand je fuis là dans la renaissance du brigand marin qui me presse, pourquoi sinon pour renseigner l'homme qu'il ne faut dédaigner? La condition la plus dure qui se trouve dans la nature, mais paisiblement supporter le mal qu'on ne peut éviter, sans qu'on ne vienne jamais à dire un mot d'impatience ou dire, ainsi que moi, pauvre poisson, me taisons, lui en fait la leçon. Ainsi que moi, pauvre poisson, me taisons, lui en fait la leçon. Pourquoi m'as-tu cruel, Neptune?
Cory Sesnek, avec ta démarche musicale, est-ce que, compte tenu évidemment que les générations sont différentes, mais est-ce que tu aurais pu te produire avec un garçon comme Graham Wright?
Ah bah oui, 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 bien sûr. Oui, ça aurait été super, ça.
Est-ce que c'est le genre d'artiste qui fait partie de tes références aussi ou
Un peu, ou pas. C'est vrai que j'ai découvert un peu plus tardivement que j'aurais voulu peut-être, mais j'adore ses chansons. Donc c'est sûr que c'était pas quelqu'un qui m'a influencé au départ, mais comme enfin c'était plus genre enfin dans le même registre un peu de Townes Van Zandt peut-être plus au départ, mais Graham Allred c'est sûr que c'était venu après.
Ouais. Alors en matière de world music, je sais pas s'il faut vraiment des étiquettes, mais dans tous les cas ta musique elle colle à plein de styles, on l'a bien compris, et puis au travers des extraits qu'on a pu écouter depuis le début de cette interview, il y a aussi une démarche qui est propre à certains musicien afro-américain qui a été pour certains de revenir entre guillemets sur le territoire africain pour non pas s'approprier l'héritage mais en transmettre la suite, c'est-à-dire aller faire du blues avec des musiciens africains. Alors ça a été le cas dans les années 80 d'un certain Johnny Copeland qui lui vivait sur New York, et puis deux autres artistes qui restent contemporains comme Corey Harris et Eric Bibb. Est-ce que Corey Harris et Eric Bibb, c'est le genre d'artiste aussi que tu apprécies pour ces raisons-là?
Oui, absolument. Eric Bibb, j'ai eu la chance de faire sa première partie à Paris il y a, c'était quoi, 7-8 ans maintenant. Et Corey Harris, je le connais un petit peu, j'adore ce qu'il fait. Donc c'est sûr que c'est des grandes influences pour moi. Et du coup, c'est vrai que leur démarche d'aller chercher d'autres artistes, des artistes du continent africain, ça faisait partie un peu, de mes références. Donc c'est sûr que ça m'a influencé.
J'ai une autre influence peut-être à te présenter d'une manière plus générale, mais quand on pense melting pot musical, on pense forcément côté États-Unis à la Nouvelle-Orléans. Est-ce que tu as fait des séjours?
Oui, j'ai fait des séjours là-bas, justement. Mon ami accordéoniste Michael, il est parti vivre là-bas. Donc lui, il est devenu vraiment grand fan de toute cette musique-là et il a collaboré avec plein de gens. Mais grâce à ça, en partie, j'ai pu aussi aller en visite et faire partie de tout ça. Et surtout, c'est vrai que j'ai avec quelques guitaristes, dont Brian Snooksegon, qui, pour moi, il y en a toujours quelques-uns qui sortent un peu du lot dans mes influences. Et Snooksegon, c'est un peu son air. C'est quelqu'un qui m'a tout de suite marqué. C'est surtout son côté un peu jukebox où d'un morceau à un autre, il change de registre. Il est très influencé à la fois par la musique contemporaine de l'époque 50, 60, 70. Soul et R&B tout ça, et en même temps on sent aussi on ressent le country blues et le côté ragtime et hot jazz aussi dans son jeu. C'est vraiment vraiment un son tout à fait un style tout à fait à lui, très unique. Enfin,
je partage ton avis à propos de Snooksegon et puis on pourra ajouter ça, une extrême dextérité à la guitare en plus du fait qu'il est aveugle. Pour l'avoir vu là-bas aussi il y a déjà quelques années, il y a pas loin de 30 ans, je témoigne, avec George Porter Junior à la basse et Herman magique. Ernest à la batterie, c'était absolument magique. Un garçon qu'on regrette profondément. Vraiment, Snooksegon, ça reste une référence. Et d'ailleurs, on en parle dans l'autre émission de blues de Radio 666 qui s'appelle Moonshine Blues, qui consacre quelques émissions à la Louisiane. Si on veut écouter ta musique, je pense que du côté des auditeurs, il faut ouvrir tout grand ses oreilles. C'est ça le message, en fait. Moi, je reprends le visuel de ta pochette. C'est écrit en haut, tout petit, Corey Sesnek, Eyes on the Rise. Et puis, ça, c'était pour l'album précédent. Et puis, un petit peu la même présentation, Deep of Time, le tout nouvel album dont tu nous gratifies, avec la nature au premier plan. C'est ça, on y revient toujours, finalement.
Oui, c'est sûr. C'est un peu le fil conducteur, le thème récurrent. Non, mais c'est ça qui m'habite un peu le plus. Je ne sais pas, c'est peut-être dans les textes aussi. C'est sûr que c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
Corey Sesnek, en dehors de la musique qu'on écoute au cours de cette interview, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais dire à nos auditeurs, de manière à ce qu'ils s'intéresse de plus près à ta musique en particulier et puis à toutes ces musiques d'une manière générale?
Qu'est-ce que je voudrais dire? Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est merci à tous qui écoutent toujours la musique et qui achètent de la musique. Je sais que en fait, souvent, ce qui se passe actuellement, c'est que on est tous un peu, on est tous interpellés par pas mal de choses et en termes d'attention, c'est pas tout le temps ça. Je sais que moi-même, je trouve qu'il y a une espèce de saturation actuelle qui part à la fois par les médias, par les réseaux sociaux, par les Netflix et les streamings et les machins. On a tellement de choses, tellement de contenu que ça devient compliqué. Donc J'aimerais remercier tous ces gens qui prennent le temps d'écouter les choses et de, surtout les artistes un peu qui sont un peu moins connus et tout ça, d'aller les chercher, de nous soutenir. C'est indispensable pour nous. Et j'aimerais donc vous remercier pour ça, puisque c'est c'est une période difficile, je trouve. On c'est est vrai. Un peu en transition et je pense que ouais, une conjoncture un peu compliquée, on va dire, pour nous. Donc c'est ça, quand on tourne, c'est ce que je dis au public, c'est de merci d'être là déjà, parce que je sais que vous aviez le choix entre ça et Netflix ou 50 000 autres choses. Pour tous les mélomanes, merci.
Voilà, on est en transition, j'espère, vers des lendemains qui vont chanter, parce que ça peut être difficilement être pire qu'aujourd'hui, parce que la curiosité commence à être une denrée rare. C'est le mot qui englobe un petit peu tout ce que tu disais. Tu remercies les gens curieux, les gens qui ont envie d'en savoir plus et puis qui ont envie de découvrir, tout simplement. Bah, c'est ta démarche, de toute façon, toi-même. C'est ta démarche artistique, c'est ta démarche humaine, depuis le début. Je vais me permettre de citer Dominique Boulet, qui parlait de ton album dans Paris Move il y a quelques semaines, et qui disait Cory chante aussi bien en français qu'en anglais et nous propose un univers musical unique qui puise aussi bien dans le folk américain que dans le rock ou la musique d'origine africaine. Un disque contemplatif et introspectif dans lequel l'auteur exprime ses interrogations face au monde qui l'entoure. Devenu père, il s'occupe de ses enfants et prend du temps pour écrire et composer. Un artiste qui réussit brillamment à faire résonner le passé dans le présent, un troubadour des temps modernes. On aurait pu écrire ça à propos d'Eric Bibb aussi, je trouve.
Ah oui, carrément, tout à fait.
Ouais. Voilà.
De toute façon, c'est une grande inspiration, Eric Bibb.
Merci pour tout ça, Cory, et je voulais te remercier pour ta gentillesse, ta disponibilité, et puis sache que je ne suis pas le seul à apprécier ton univers. Certains de l'autre côté du poste vont peut-être le découvrir aujourd'hui, ou en tout cas peut-être conforter leur amour dans ton répertoire, et puis peut-être aussi avoir la curiosité de fouiller dans tes disques précédents. On émaille cette interview de plusieurs extraits de Deep of Time et puis de Eyes on the Rise, voilà les deux derniers albums de Cory Sesnek. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère, sur la route de la musique.
Merci beaucoup, Marc, merci à toi.
Et puis, bien sûr, on peut aller voir sur le site internet quelles sont les prochaines dates. Je crois que tu vas te produire à la Charité-sur-Loire au mois d'août, il me semble, sous ton nom. Voilà.
C'est ça.
Merci, Cory, à très bientôt.
Merci, Marc.
Au revoir.
Au revoir.
Whispers in the wildwood leading me astray, this poor night wanderer with no sense of day. Riding up to the high plateau where the sun never sets, at the edge of the cliff is the only peace of mind I can get.
Merci à Cory Sesnek pour cette interview et puis pour vous référer à la totalité des extraits et des titres qui sont passés. Eh bien, ce sont tout simplement des extraits de Deep of Time et de Eyes on the Rise, ces derniers albums. Et puis, bien sûr, vous pouvez consulter la playlist complète sur bluesradio.fr/playlist. Et nous, on termine avec l'un des mentors, et nous l'a dit tout à l'heure, de Cory Sesnek. Il s'agit de Eric Bibb. Et pour être tout à fait raccord avec la démarche dont on a parlé tout à l'heure, on va l'écouter, Eric Bibb, avec Habib Kouaté. Ça s'appelle We Don't Care.
We love to fly first class, someone else pays the ticket. We love our juicy fruit, long as we don't have to pick it. We love our fast food, don't care about heart attacks. We love to gossip, don't care about the facts. We want the gold, long as we don't have to mine it. Don't care who suffers or who's behind it. We want the cool running shoes, don't care who made them. Don't care if they go to school or what the company paid them.
We don't care, we don't care, we don't care. We don't care, we don't care, we don't care.
We want the cheap gasoline, jump in the car and go. Don't care what the world agreed upon in Kyoto. We ought to all save water, but we don't even try. Take 30-minute showers while the well runs dry.
We don't care, we don't care, we don't care. We don't care, we don't care, we don't care.
Everything we need, but we still want more.
We don't care, we don't care, we don't care. We don't care, we don't care, we don't care. We don't care, we don't care, we don't care.
We don't care, Eric Bibb et Habib Kouaté. On était en 2012 chez Dixie Frog. On se retrouve la semaine prochaine avec trois nouveaux invités. Lorenzo Sanchez pour son actualité et la sortie de son album Blue Avenida. Justina Lee Brown pour sa carrière et son actualité dans le cadre des sorties de bain. Ce sera le numéro 3 pour Bain de Blues. Et puis Michel Roland qui nous présente le festival Cognac Blues Passion qui se déroulera du 2 au 6 juillet 2024. Salut, bye bye.
Back to that same old place.